Notre dernier explorateur, non des moindres, donc André Comte-Sponville, qu'il n'est même pas nécessaire de présenter, mais que je présenterai quand même. Ancien élève de l'École normale supérieure à Paris, agrégé en philosophie, docteur en lettres, longtemps maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et auteur de nombreux ouvrages dont je donne quelques titres. Petit traité des grandes vertus, Le bonheur désespérément, L'amour, la solitude, Aimer désespérément et je crois récemment, je me trompe, L'esprit de l'athéisme.
Oui.
C'est cela. Je voulais juste préciser avec vous, j'ai retrouvé en 99 une sorte d'interview, débat que vous avez fait avec Philippe Breneau et Pierre Costa. C'était une toute petite chose, d'accord, mais c'était quand même quelque chose puisque ça a donné un petit recueil et c'était une question évidemment qui nous intéresse ce soir. Qu'est-ce que l'amour? Donc, après toutes ces étrangetés que nous avons traversées toute la journée, André Comte-Sponville va peut-être nous montrer que le plus étrange est parfois ce que nous avons de plus familier, de plus commun, et que l'insolite n'est pas automatiquement exotique, lointain, bizarre, mais si, et je le cite, « philosopher, c'est penser sa vie et vivre ses pensées », l'insolite s'installerait dans la banalité de la vie quotidienne. À vous, André.
Merci à vous, bonjour à tous. Oui, on m'a demandé de parler d'amour plutôt que de sexualité. Et puisque le thème de votre rencontre, c'était l'insolite, j'ai décidé de parler de l'insolite de l'amour. L'insolite de l'amour plutôt que l'insolite du sexe. Parce que il y a des sexualités insolites, les transsexuels, les nécrophiles, tout ce qu'on veut. Mais le sexe en tant que tel n'est pas insolite. Le sexe est étrange, troublant, inquiétant parfois, mais pas insolite si on entend par insolite, c'est-à-dire le sens du mot, conforme au sens du latin insolitus, ça a été rappelé ce matin, quelque chose qui ne serait pas fréquent, ni habituel, ni banal. Eh bien, je vais vous dire, le sexe, la sexualité, le coït, pour la plupart des gens, et c'est tant mieux, c'est fréquent, c'est habituel, et c'est banal. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'une des caractéristiques paradoxales de la sexualité, que cette rencontre de la fréquence et de l'étrangeté. En général, ce qui est étrange est insolite, rare, oui. Le sexe, c'est assurément étrange, et pourtant, c'est très fréquent. C'est ce que j'appellerais non pas l'inquiétante étrangeté du sexe, pour reprendre une expression freudienne, mais plutôt sa coutumière étrangeté, et son inquiétante banalité. Disons son étrangeté habituelle et son trouble ordinaire. Le sexe est étrange, mais pas insolite. Ce qui est insolite, c'est pas le sexe, c'est l'amour. Parce que ça, c'est pas si fréquent que ça. Au fond, la dernière fois que vous avez fait l'amour, c'était quand? Quelques heures, quelques jours, au pire. Mais la dernière fois que vous êtes tombé amoureux, c'était quand? Quelques mois, quelques années, plusieurs années. Le dernier coït, ça se compte en heures ou en jours. La dernière histoire d'amour, ça se compte en mois ou en années. Eh bien, ce qui est insolite, c'est ce qui n'est pas habituel. Il n'est pas habituel de tomber amoureux. Et comme on n'aura jamais amoureux très longtemps, on peut dire que la passion amoureuse, en général, est insolite par définition. Le sexe est normal, nécessaire, non pas tant pour l'individu qui peut à la rigueur s'en passer, mais pour l'espèce. Sans le sexe, l'espèce ne survivrait pas. Le sexe est normal, nécessaire, naturel, habituel. L'amour, non. L'amour n'est pas habituel, il n'est pas naturel. Philippe Breneau disait, le couple, c'est pas naturel, j'en suis d'accord, mais l'amour non plus. Il n'est pas d'ailleurs tout à fait certain que l'amour soit tout à fait normal. Et en tout état de cause, il n'est pas du tout nécessaire pour l'espèce. Sauf à imaginer, avec Schopenhauer, que l'amour, c'est l'idée de la théorie de Schopenhauer, l'amour est un piège inventé par la nature pour susciter les unions les plus favorables à l'espèce. La nature aurait inventé l'amour pour que nous fassions de beaux enfants. Évidemment, je n'en crois rien. Parce que, pour ce qui est de nous pousser à faire des enfants, éventuellement à les réussir, le sexe suffit, précisément. Et d'ailleurs, les espèces animales, y compris les mammifères, réussissent aussi bien que nous à préserver la survie de l'espèce et la qualité du patrimoine génétique, sans avoir besoin pour autant, semble-t-il, de vivre des histoires d'amour. Donc ce n'est pas la nature qui a inventé l'amour. C'est pourquoi je pense qu'en effet, l'amour n'est pas naturel. Mon idée, pour tout vous dire, même si c'est en partie une boutade, mais en partie seulement, c'est que l'amour n'est pas une invention de la nature, c'est une invention des femmes. Alors parfois on en conclut que ça veut dire que je ne crois pas en l'amour, que pour moi l'amour n'existe pas. Mais bien sûr que si. Les frères Lumière ont inventé le cinéma. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'existe pas, ça veut dire au contraire que le cinéma existe. Je ne sais plus qui a inventé le téléphone. Ça ne veut pas dire que le téléphone n'existe pas, ça veut dire au contraire que le téléphone existe. Eh bien, les femmes ont inventé l'amour, ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas, ça veut dire au contraire que l'amour existe, mais qu'il n'existerait pas sans les femmes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'une humanité purement masculine. Parce qu'au fond, la nature aurait pu inventer, comme dirait Schopenhauer, d'autres modes de reproduction que la reproduction sexuée. Une humanité purement masculine n'aurait jamais inventé l'amour, me semble-t-il. Le sexe et la guerre auraient suffi toujours. Disons, il n'y avait qu'une humanité masculine, que des hommes, le sexe, la guerre et le football auraient suffi toujours. Par chance, pour les femmes, ça ne suffit pas. Elles ont donc inventé autre chose à quoi la nature n'avait pas vraiment songé, qu'on appelle en français l'amour et qui donc existe bien, mais qui touche à la culture au moins autant qu'à la nature, dont les hommes sont parfois capables, mais parce qu'ils ont été aimés d'abord toujours et par une femme presque toujours, et depuis bien plus longtemps, parce que vous voulez. Il y a fait quelques décennies que les pères commencent à aimer leurs enfants, on est content pour eux, si vous voulez, mais si l'humanité survit depuis 100 000 ans, c'est que les femmes ont commencé à aimer leurs gamins bien avant. Parce que dans les conditions du paléolithique, je vous jure bien qu'un enfant qui n'est pas aimé ne vit pas 15 jours. Autrement dit, ce sont les femmes qui ont inventé l'amour, ne rêvez pas, c'est pas les épouses, c'est les mères, bien sûr. Ça tombe bien, les mères ont existé quelques dizaines de milliers d'années avant les épouses. Alors très bien, mais quel amour? Parce qu'en vérité, à en parler au singulier, sous ce seul vocable d'amour, il va de soi qu'on met sous le même mot des amours très différents. Il y a la passion amoureuse, il y a le couple. C'est pas du tout la même chose. Les mauvaises langues diraient même c'est le contraire. Il y a l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est de l'amour, mais c'est pas le même. Il y a l'amour qu'on a parfois pour nos parents, c'est de l'amour, mais c'est encore un autre. Il y a l'amour qu'on a pour nos amis, etc., etc. Si bien que le français, qu'on dit ordinairement, d'ailleurs à juste titre, une langue plutôt analytique, fait preuve, s'agissant d'amour, d'une puissance synthétique presque exagérée. Si bien que pour y voir plus clair, j'ai pris l'habitude, une fois n'est pas coutume, non pas de parler grec, j'en serais d'ailleurs malheureusement incapable, comme vous sans doute, de me comprendre, mais d'utiliser les trois mots grecs dont les anciens se servaient, vous pouvez m'allumer ça, ce serait gentil, pour désigner trois types d'amour différents. Oui, en grec, alors il y a toutes sortes de mots comme en français où il y a affection, tendresse, dilection, concupiscence, tout ce qu'on veut, mais là on rentrerait dans trop de détails. En grec de même, il y a plusieurs mots différents pour dire l'amour, mais les trois principaux, ceux que je vais retenir, alors le premier bien sûr est très connu, même s'il est souvent mal compris, c'est eros. Le deuxième n'est guère connu que par ceux qui ont fait un petit peu de grec ou de philosophie, voire les deux, philia. Quant au troisième, il n'est connu que par ceux qui ont une culture religieuse, spécialement chrétienne, point trop déficiente, c'est agapé. On dit souvent agapé, si on veut translittérer exactement le grec ancien, il faut mettre un « e » ouvert, vous avez le choix entre l'accent grave et l'accent circonflexe. Eros, philia, agapé. Voilà les trois noms grecs de l'amour, voilà les trois façons d'aimer que je soumets à votre réflexion. Et ça va être désormais le plan de mon exposé, grand 1, Eros, grand 2, philia, grand 3, agapé. Je commence tout de suite, grand 1, Eros. Alors qu'est-ce que c'est qu'Eros? C'est pas seulement, ni d'ailleurs surtout, la sexualité, comme on le croit ordinairement à cause du français érotique. Non, non, Eros en grec, c'est pas le dieu du sexe, c'est le dieu de l'amour. Mais c'est un amour particulier parce que c'est la passion amoureuse. Au sens le plus fort du mot passion. Hein, c'est l'amour que vous ressentiez quand vous étiez, comme disent les jeunes aujourd'hui, redingue amoureux. C'est l'amour que vous ressentiez pour votre mari, mesdames, avant qu'il ne soit votre mari. C'est l'amour que vous ressentiez pour vos épouses, messieurs, avant qu'elles ne soient votre épouse. C'est la passion amoureuse et c'est aussi l'amour selon Platon. Alors pourquoi l'amour selon Platon? Parce que le plus beau texte sans doute jamais écrit sur cet amour-là, sur la passion amoureuse, de la vie de la plupart des philosophes, et en tout cas du mien, c'est un texte de Platon qui s'appelle Le Banquet. Alors Le Banquet, c'est quoi? Bah, c'est un dialogue écrit par Platon. C'est l'histoire d'amis qui dînent ensemble pour fêter en l'occurrence le succès de l'un d'entre eux à un concours de tragédie et qui commencent à parler d'amour. Et chacun va y aller de sa définition, de son éloge de l'amour. Il y a 7 discours successifs. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter les 7. Ce serait d'ailleurs parfaitement inutile, parce que de ces 7 discours, la tradition philosophique n'en retient que 2, qui sont les 2 à être philosophiquement substantiels, le discours d'Aristophane et le discours de Socrate. L'étrange dans cette histoire, c'est que si les philosophes retiennent ces 2 discours, le grand public, en vérité, lui, ne retient que le premier, le discours d'Aristophane. Je me souviens d'un colloque à Grenoble il y a quelques années, organisé par le planning familial, colloque ouvert à tout le monde, au grand public. Dans la salle, plusieurs personnes ont évoqué le banquet de Platon. C'était tous, sans une seule exception, pour évoquer le discours d'Aristophane. Or, du point de vue de Platon, qui quand même a écrit le livre, Platon qui détestait Aristophane. Parce que Aristophane, c'est un personnage dans le dialogue de Platon, mais avant d'être un personnage réel. C'est un homme en chair et en os, c'est un poète grec du temps de Platon, qui avait commis un péché mortel. Il avait écrit une pièce de théâtre, Les Nuées, dans laquelle il se moquait de Socrate. Il est exclu que Platon, l'élève de Socrate, lui pardonne jamais. Et donc, il était donc invraisemblable que Platon fasse dire à Aristophane la vérité sur l'amour. Le discours d'Aristophane est brillant, c'est Platon qui l'a écrit, mais faux, vain, illusoire, mensonger, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et tout le grand public vous répète en gros depuis 2000 ans, « Ah, sur l'amour quand même, Aristophane, qu'est-ce que c'est bien ?» Oui, mais Socrate, tu te souviens ce qu'il dit sur l'amour? Personne s'en souvient. Alors que celui qui dit la vérité sur l'amour pour Platon, c'est pas Aristophane, c'est évidemment Socrate. Alors comment se fait-il que tout le monde retienne le discours brillant mais vain d'Aristophane et se déplaise d'oublier le discours brillant mais vrai de Socrate? C'est bien sûr pas un hasard. C'est qu'Aristophane décrit l'amour tel que nous voudrions qu'il soit. C'est l'amour tel qu'on le rêve, le grand amour, comme on dit à 16 ans, l'amour avec un grand A. Et comme ça va dans le sens de nos désirs et de nos illusions, il est facile de le retenir. Alors que Socrate décrit l'amour non pas tel que nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est. Promis toujours au manque ou à la transcendance, et les deux sont difficiles. Et comme c'est exigeant, on se dépêche de l'oublier. Bon, et dans quoi les 2 discours sont intéressants? Le premier, Aristophane, parce qu'il nous éclaire sur nos illusions amoureuses. Le second, Socrate, parce qu'il nous éclaire sur nos désillusions amoureuses. Alors, comme je ne sais pas lesquels d'entre vous sont actuellement dans l'illusion amoureuse ou dans la désillusion amoureuse, il y a sans doute les 2, je vais donc entreprendre d'évoquer les 2 discours. je commence par le discours illusoire, celui d'Aristophane. Alors, Aristophane est un poète, je le disais, son discours est un discours de poète. Il va nous raconter une histoire. En l'occurrence, un mythe, c'est-à-dire une histoire qui se passe en un temps primordial, un temps d'avant le temps. En ce temps-là, explique Aristophane, l'humanité n'était pas du tout comme nous voyons aujourd'hui qu'elle est. Chaque homme, chaque femme était double, et pourtant d'une unité parfaite. En ce temps-là, par exemple, les hommes et les femmes n'avaient pas deux bras et deux jambes comme vous et moi. Ils avaient quatre bras et quatre jambes. Ils n'avaient pas un visage comme vous et moi, ils avaient deux visages, un devant, l'autre derrière. Ils n'avaient pas un sexe comme vous et moi, ils avaient deux sexes. Alors certains avaient deux sexes d'hommes, c'est ce qu'on appelait les hommes, d'autres avaient deux sexes de femmes, c'est ce qu'on appelait les femmes, d'autres enfin avaient un sexe d'homme, un sexe de femme, c'est ce qu'on appelait les androgynes, c'est-à-dire littéralement en grec, les hommes-femmes. Le problème, c'est que ces humains primordiaux, avec leurs quatre bras, leurs quatre jambes, leurs deux visages, sans doute leurs deux cerveaux, leurs deux sexes, étaient d'une force et d'une audace invraisemblables. Ils ont entrepris d'escalader l'Olympe pour s'en prendre aux dieux. Et ça, les dieux, évidemment, c'est humain, si j'ose dire, ils n'ont pas aimé du tout. Ils sont allés voir Zeus, le dieu des dieux, et lui ont dit, t'as vu Zeus, les humains, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'escalader l'Olympe pour nous chercher des noix, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Zeus leur a dit, je m'en occupe. La première idée de Zeus, ça a été d'envoyer la foudre, qu'on en finisse une bonne fois avec ces petits humains agaçants. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont agaçants, les humains. Mais ils nous construisent des temples. Ils nous font des sacrifices. Ils nous font des prières. Ils font brûler l'encens. Et ça, pour un dieu grec, malgré tout, c'est délectable. On n'a pas du tout envie d'y renoncer. Si bien que Zeus dit à ses collègues divins, j'ai une meilleure idée. Ces petits humains prétentieux et agaçants, je vais te les couper en deux, de haut en bas, par le milieu. Comme ça, double bénéfice, ils seront deux fois plus nombreux, deux fois plus de temples, de prières, de sacrifices. Ils seront deux fois plus faibles. Ils pourront plus escalader l'Olympe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà tous les humains coupés en deux, de haut en bas, par le milieu. Et voilà, mon cher Philippe, pourquoi vous n'avez que deux bras et deux jambes, et non pas comme avant, quatre bras et quatre jambes. Voilà, ça j'ai pas vérifié, mais en tout cas, voilà au moins un premier mystère éclairci. Le problème, bien sûr, c'est qu'on nous a, à la lettre, amputé de notre moitié. J'étais un humain complet, vous n'avez plus devant vous qu'une moitié d'humain. Qui cherche éperdument la moitié qui lui manque, évidemment. Alors les uns, ceux qui étaient des hommes, bah, c'est une moitié d'hommes qui cherchent une moitié d'hommes. C'est ce qu'on appelle les homosexuels masculins. Les femmes, celles qui avaient deux sexes de femmes, c'est une moitié de femmes qui cherchent une moitié de femmes, c'est ce qu'on appelle les homosexuels féminines. Et puis les androgynes, ceux qui avaient un sexe d'homme, un sexe de femme, bah, c'est une moitié d'hommes qui cherchent une moitié de femmes, une moitié de femmes qui cherchent une moitié d'hommes, c'est ce qu'on appelle les hétérosexuels. Et voilà un deuxième mystère éclairci. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour ? Bah, c'est justement le désir de se fondre, une fois qu'on l'a retrouvé, avec la moitié qu'on a perdue. Platon écrit, mais faisant parler Aristophane, l'amour c'est le désir, je cite, de se réunir et de se fondre avec l'objet aimé, se réunir et se fondre avec l'objet aimé, et de ne plus faire qu'un au lieu de deux. Ne plus faire qu'un au lieu de deux. C'est là, conclut Aristophane, le plus grand bonheur qu'on puisse atteindre. Vous comprenez pourquoi je disais que ce mythe d'Aristophane nous décrit l'amour tel que nous voudrions qu'il soit. D'abord, le grand amour, comme je le disais. D'abord parce que c'est un amour exclusif. Chacun d'entre vous n'ayant perdu qu'une seule moitié ne peut donc aimer de cet amour-là qu'une seule personne. Celui qui me dit « j'ai perdu trois moitiés », c'est qu'il est très mauvais en arithmétique. Ensuite, c'est un amour définitif. Une fois qu'on a retrouvé sa moitié, comme on dit, c'est pour la vie, annonce Aristophane, et même pour après la mort. Troisièmement, c'est un amour qui comble absolument le plus grand bonheur qu'on puisse atteindre. Quatrièmement, c'est un amour qui met fin à la séparation et à la solitude. Ne plus faire qu'un au lieu de deux. Bref, c'est l'amour fusionnel, comme disent aujourd'hui nos psychologues, l'amour tel qu'on le rêve. Ou peut-être tel qu'on le regrette, parce qu'il faudrait se demander si la seule occurrence vraie de cet amour-là, c'est pas l'enfant, avant la naissance, fondu dans le corps de sa mère. Parce que pour le reste, force nous est de constater que notre expérience s'inscrit clairement en faux contre le discours d'Aristophane. Aristophane nous dit que l'amour est exclusif, qu'on ne peut aimer de cet amour-là qu'une seule personne. On est une grosse majorité dans la salle à avoir été amoureux plusieurs fois. Vous allez me dire, oui, mais successivement. Ben oui, mais successivement, ça compte quand même. Le grand amour est censé être unique. Si vous me dites, j'ai vécu 4 grands amours, ben c'est déjà pas ce qu'on évoquait quand on parle du grand amour ou du prince charmant à 16 ans. Hein. Il y a des jeunes filles qui attendent le prince charmant. Celles qui attendent les princes charmants, c'est tout à fait autre chose. Et puis, qui plus est, on n'est pas toujours amoureux de plusieurs personnes. Successivement, il arrive, c'est plus rare, mais qu'on soit amoureux de 2 personnes à la fois. Jules et Jim. Je vais dire, oui, mais c'est du cinéma. Dans la vie réelle, c'est quand même très rare. C'est vrai, c'est rare. Mais enfin, je vais vous dire, et vous le savez bien, si tous les hommes qui trompent leurs femmes avaient cessé par là même de les aimer, la vie serait beaucoup plus simple et facile qu'elle n'est, surtout à notre époque où le divorce est banalisé. Le problème de l'homme qui trompe sa femme, c'est tout bêtement qu'il aime sa femme. Il ne supporte pas l'idée de la faire souffrir. On dit les hommes sont lâches, peut-être, on pourrait dire aussi bien les hommes sont gentils, c'est peut-être la même chose en vérité. Le problème de la femme qui trompe son mari, mais c'est qu'elle aime son mari, sinon elle serait déjà partie, courageuse comme elles sont, elles. Donc il n'est pas vrai que l'amour soit exclusif. Il n'est pas vrai, deuxièmement, que l'amour soit définitif. Là encore, nous sommes une grosse majorité dans la salle à avoir vécu le désamour. Au nom de quoi faudrait-il penser que notre expérience du désamour est moins vraie que notre expérience de l'entrée en amour ? Il n'y a aucune raison. Le désamour fait partie du réel au même titre que l'amour. Nous savons d'expérience qu'il n'est pas vrai que l'amour comble absolument. On peut très bien aimer et être aimé sans être heureux pour autant. Parce qu'il y a 1000 raisons d'être malheureux indépendamment de nos histoires de couple. Le jeune couple qui vient de perdre son gamin, le gamin est mort, ils ont beau s'aimer follement l'un l'autre, ils sont atrocement malheureux, évidemment. L'amour n'a jamais été une garantie de bonheur. Enfin, quatrièmement, nous savons tous d'expérience qu'il n'est pas vrai qu'en amour, on ne fasse qu'un au lieu de deux. En amour, on fait toujours deux et jamais un. Y compris dans le cadre de la vie sexuelle. Si on veut prendre ce qui ressemble le plus à une fusion amoureuse, le coït, y compris en cas d'orgasme simultané, Dieu sait que c'est pas le plus fréquent. Mais je vous ferai simplement observer que pour qu'il y ait orgasme simultané, il faut qu'il y ait 2 orgasmes. Et non pas un, c'est la condition de la simultanéité. Et non seulement il faut qu'il y ait 2 orgasmes, mais vous ne saurez jamais, jamais, ce que l'autre a vécu. C'est exactement ce qu'on appelle la séparation et la solitude. Autrement dit, en amour, on est toujours 2 et jamais 1. Ou plutôt, quand on est 1, c'est ce qu'on appelle la masturbation. Alors, on est tous convaincus que c'est pas mal, mais ordinairement, on est quelques-uns à penser que c'est quand même moins bien qu'à 2. Autrement dit, voilà, Aristophane, c'est joli, ça fait rêver les jeunes filles, parfois les jeunes garçons quand ils rêvent encore, mais c'est faux. Voilà. Simplement, c'est un discours qui est totalement démenti par notre expérience. C'est la description assez juste des illusions dont il faut se défaire sur l'amour. Et c'est ça que Socrate ne lui va pas dire. En gros, il lui dit, ton discours, c'est du pipeau. Moi, Socrate, je vais te dire la vérité sur l'amour. Vous allez le trouver bien prétentieux, oui, mais il l'est qu'à moitié, parce qu'en vérité, cette vérité sur l'amour, Socrate ne prétend pas l'avoir inventée, il l'a reçue. Il l'a reçu d'une femme, en l'occurrence. Cette femme s'appelle Diotime. C'est le cas très rare, peut-être unique, dans toute l'œuvre de Platon, qui est considérable, et peut-être dans toute la philosophie grecque. C'est le cas très rare et peut-être unique où la vérité vient d'une femme. vous ne ferez pas croire que c'est un hasard si c'est justement sur l'amour que, en grec, en Grèce et en ce temps-là, où ils étaient encore plus phallocrates que nous, la vérité vient d'une femme. Alors qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'elle lui a appris sur l'amour d'Iotime? Eh bien, elle lui a appris deux choses, pour dire une double équation. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. L'amour est désir. Première équation. L'amour est désir. Et deuxième équation, le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant « Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement avec le poète, et voilà pourquoi il n'y a pas d'amour heureux. Pourquoi? Parce que l'amour est désir et que le désir est manque. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Ben, être heureux, répond Platon, mais Épicure disait la même chose, Kant dira la même chose, chacun d'entre nous pourrait dire en gros la même chose. Être heureux, en gros, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne sera jamais heureux, mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne partie, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas, puisque le désir est manque. Oui, mais si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, malgré tout, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez. Vous avez ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez, c'est ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas à moi qu'il donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par avance raison à Spinoza, je les en remercie par avance, je leur demande juste 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Mon idée, c'est qu'on doit être en gros une majorité ici à être évidemment dans l'entre-deux. Mais justement, pour penser l'entre-deux, il est important de bien comprendre la logique de chacun des deux pôles. Donc voilà, à chaque fois que vous donnez raison à Platon, autrement dit, à chaque fois que vous aimez ce que vous désirez et que vous désirez ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison à Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors il n'y a pas d'amour heureux, Aragon. 3 exemples. Je commence par un exemple trivial pour me faire comprendre qui me concerne personnellement. Je suis donc philosophe, ça veut dire que j'ai fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. J'ai passé 5 ans de ma vie à me dire, en gros, qu'est-ce que j'aimerais être agrégé de philo? Qu'est-ce que je serais heureux le jour où je serais agrégé de philo? J'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais, les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie? Vous diriez, ce type est un con. Vous auriez évidemment raison. Mais ça nous apprend quelque chose de très éclairant et d'assez sombre en même temps sur la condition humaine. Ça nous apprend que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, je voulais adapter ça à votre cursus propre, ça nous apprend que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Ou mais elle ne fait pas son bonheur, puisqu'il n'a pas l'agrég et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur, puisque j'ai l'agrégation. Qu'en conséquence, elle ne me manque pas, ce qui me rend donc incapable de la désirer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Deuxième exemple, plus grave, le travail. Quand on intervient devant des chefs d'entreprise, on leur dit toujours, souvenez-vous du salarié que vous avez embauché il y a 6 mois, vous savez, celui qui sortait de 18 mois de galère. Il était au chômage depuis 18 mois, ça faisait 18 mois qu'il se disait à peu près tous les jours, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis vous l'avez embauché il y a 6 mois, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, bien sûr, c'est que depuis qu'il a été embauché, dans tel ou tel de vos services, par exemple, ou votre assistante, que sais-je, depuis qu'il a été embauché, ben évidemment, le travail ne lui manque plus. Il en a du travail. Il en a même beaucoup, en vérité. Il en a plein les bras, et puis très vite, il en a plein le dos. Mais le problème, c'est que si le désir y manque, si le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Et si l'amour est désir, s'il ne désire plus travailler, il n'aime pas son métier. Lui, ce qu'il aime, comme tout le monde, c'est les loisirs, le repos, les week-ends, les vacances. Bref, Platon nous aide à comprendre cette vérité désagréable mais profonde, que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il est chômeur, il n'a pas de travail, il souffre de ce manque. Il ne fait pas le bonheur des salariés parce qu'ils ont du travail. Que le travail, en conséquence, ne leur manque pas, ce qui les rend donc incapables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Enfin, le troisième exemple, mais qui est plus qu'un exemple, c'est le couple, précisément. Parce qu'au fond, tomber amoureux, c'est quoi ? Tomber amoureux, c'est comprendre tout d'un coup, réaliser tout d'un coup, que quelqu'un vous manque terriblement. Vous étiez bien jusque-là, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous tombez amoureux de l'homme ou de la femme qui vous manque plus que tout. Vous ne supportez plus de vivre sans lui ou sans elle. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. C'est déjà compliqué en vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, pour la simplicité de mon modèle, on va imaginer que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. On est quelques-uns ici à être bien placés pour le savoir. Donc voilà, vous rencontrez quelqu'un, un homme, je veux dire une personne, pour ne pas avoir toujours à hésiter entre le masculin et le féminin, qui vous manque terriblement. Vous êtes amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque continue. La souffrance continue. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. Bon. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble, éventuellement vous vous mariez, vous faites des enfants. Forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, cette personne va vous manquer de moins en moins. Le problème, c'est que si le désir est manque, si elle vous manque de moins en moins, la vérité vraie, c'est que vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant, messieurs, comme 6 mois plus tôt, vous la désiriez plus que toutes les autres, et 6 mois plus tard, la première gamine de 20 ans, un peu jolie, qui part dans la rue, vous paraît tout d'un coup beaucoup plus désirable. Oui, mais le problème, c'est que si l'amour est désir, si vous la désirez de moins en moins, la vérité vraie, c'est que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes marié depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin, vous vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Mais ça veut dire d'évidence, soyez honnête, on est entre grandes personnes, que vous ne l'aimez plus de la même façon. Arrêtez de faire semblant. Ou bien donc, alors, si elle ne vous aime pas, cette personne, vous êtes dans le manque, dans la souffrance, dans le chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à la séduire, vous vous aimez l'un l'autre, il n'y a plus de manque. Alors, c'est plus la souffrance, il n'y a plus de manque. C'est ce que Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, mais disciple explicite de Platon, hein, c'est ce que Schopenhauer appelle l'ennui. L'ennui, c'est quoi l'ennui? C'est pas la souffrance. C'est pas le bonheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Vous aviez rendez-vous avec le bonheur. Quand j'aurai la grègue, tel poste, telle femme, vous avez la grègue, le poste, la femme, vous êtes au rendez-vous. Le bonheur n'y est pas. Le bonheur vous a posé un lapin. C'est pas que vous soyez malheureux, il n'y a plus de souffrance, il n'y a pas de manque. Mais le bonheur n'est pas là. C'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue, l'ennui. Et Schopenhauer écrit superbement, je dis toujours c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, comme ça après on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Schopenhauer résume tout ça en une phrase, qui est la phrase suivante. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule. Pardon. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chagrin d'amour. Ennui du couple. Souffrance du chômage, ennui du travail. Donc je disais, vous êtes amoureux, quelqu'un vous manque, vous entreprenez de séduire cette personne, de deux choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, bah, le manque continue, la souffrance continue, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Si vous arrivez à la séduire, il y a de moins en moins de manque, de moins en moins de désir, de moins en moins d'amour, vous vous ennuyez, c'est ce qu'on appelle un couple. Alors, il y a une chose que Platon n'explique pas, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ça aussi, on le sait d'expérience, l'expérience directe dans le meilleur des cas, indirecte dans d'autres, mais on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Ça fait partie aussi de notre expérience. Je ne dis pas forcément heureux toute la vie, ça, je suis d'accord avec Philippe Breno pour dire que c'est un autre problème, mais il existe des couples heureux. Alors ça, pour Platon, c'est complètement inintelligible. Comment ils peuvent être heureux puisqu'ils vivent ensemble? Donc ils ne se manquent plus. Mais alors ils ne se désirent plus, mais donc ils ne s'aiment plus. Mais vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est pas le bonheur, c'est le contraire, c'est le malheur. Et pourtant, nous savons d'expérience qu'il existe parfois des couples heureux. Et comme ça, Platon ne l'explique pas, ben on a besoin d'une autre théorie de l'amour, non plus Eros, mais grandeur, philia. Alors, philia en grec, ça veut dire amitié. Enfin, disons que c'est la meilleure traduction possible en français. Elle n'est qu'à moitié satisfaisante parce que philia en grec, ça a un sens beaucoup plus large qu'amitié en français. Par exemple, quand Aristote veut décrire l'amour entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents, il n'écrit pas Eros, bien sûr. Comment voulez-vous manquer des enfants que vous avez? On les a sur le dos en permanence. Comment voulez-vous manquer des parents pires que vous avez? Non, non. Philia. C'est l'amour de tout ce qui ne manque pas. Alors qu'en français, vous voyez, on parle rarement d'amitié entre parents et enfants. On dirait plutôt affection, tendresse. Mais qui plus est, quand Aristote, qui s'est marié deux fois, et les deux fois, heureusement, sa première femme est morte, il s'est remarié, il a été heureux en ménage les deux fois. Alors que Platon, évidemment, ne s'est jamais marié. Et Socrate s'est marié, mais ça n'a pas été une réussite. Quand Aristote, heureux en ménage, veut décrire l'amour entre l'homme et son épouse, entre la femme et son mari, il n'écrit pas Eros. Bien sûr qu'ils font l'amour ensemble, mais encore une fois, Eros, c'est pas le sexe, c'est la passion amoureuse, c'est le manque. Comment voulez-vous manquer de celui ou celle qui partage votre vie? Comment voulez-vous, mesdames, être amoureuses de votre mari? C'est absurde, aucun grec peut croire à ça. Philia. Alors qu'en français, là encore, on évitera de parler d'amitié entre conjoints ou au sein du couple. On trouvera d'autres mots. Enfin, en français moderne, parce qu'au XIXe siècle, et encore au début du XXe, regardez les pièces de Feydeau, Courteline, Labiche. Dans les bonnes familles, on s'appelait très volontiers entre époux, mon ami, ma douce amie, ma tendre amie. Vous allez me dire, oui, mais ça ne se fait plus, il ne s'aimait même pas vraiment. Moi, je ne suis pas sûr que le couple date de la semaine dernière, hein, Philippe. Enfin bon, c'est autre chose. Mais regardez les jeunes d'aujourd'hui. Quand votre jeune fille ou jeune garçon de 18-20 ans va vous présenter celui ou celle qu'il prend pour l'amour de sa vie, il va vous dire, papa, maman, je te présente mon ami. Et vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces deux-là ont cessé de se manquer depuis déjà plusieurs semaines. Ou parce que s'il fallait présenter à papa et à maman avant de coucher, la vie vraiment serait beaucoup trop compliquée. Filia. Ils diront mon copain, ma copine, filia. C'est l'amour de celui ou celle qu'on a. C'est aussi bête que ça. Voilà. Eros, c'est l'amour de celui ou celle qu'on n'a pas. Filia, c'est l'amour de celui ou celle qu'on a. C'est ce que Montaigne appelait joliment l'amitié maritale. C'est-à-dire exactement l'amour dans le couple. Alors ça, c'est le sens du mot. Quand maintenant à la dimension affective, eh bien, Eros, c'est le manque, c'est la passion amoureuse. Philia, alors c'est l'amour selon Aristote. On va voir que c'est l'amour aussi selon Spinoza. Donc Aristote, l'élève de Platon, 4e siècle après Jésus-Christ, en Grèce. Spinoza, bien sûr, juif hollandais, pourrait-on dire, 17e siècle après Jésus-Christ, évidemment, à Amsterdam ou près d'Amsterdam. Quant au contenu affectif, Eros, c'est le manque, c'est-à-dire la passion. Philia, c'est la joie. Aristote écrit superbement, aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Autant si Platon a raison, ou si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si l'amour est manque, alors vous donnez raison aussi à Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Si au contraire c'est Aristote qui a raison, ou si vous donnez raison à Aristote dans votre histoire d'amour, si aimer c'est se réjouir, alors il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, bien sûr. Au sens propre, il est mort, ou au sens figuré, il est parti. Parce que le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie douloureusement chez Platon. Alors, c'est sans doute Spinoza ici qui est le plus éclairant, c'est lui en tout cas que je vais suivre sur Philia. Spinoza serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir. Ça, oui, pas de problème. Mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Autrement dit, le geste philosophique de Spinoza, c'est ça, remplacer un égal par un différent de. C'est moi qui le dis comme ça, c'est pas lui, d'ailleurs il parle pas de Platon quand il parle d'amour, mais si on veut reconstruire entre eux un dialogue posthume, c'est ça que ça veut dire. Pour Spinoza, oui c'est vrai, l'amour est désir, mais non, assurément pas, le désir n'est pas manque. Parce que pour Spinoza, le désir est puissance. Puissance de jouir et jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique du terme. J'ai dit puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance. Autrement dit, puissance exactement au sens où l'on parle de la puissance sexuelle. On en parle le plus souvent pour les hommes. On pourrait en parler, et je suggère qu'on en parle exactement au même sens pour les femmes. C'est quoi la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Et donc la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce que si vraiment Platon avait toujours raison, si nous ne savions désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle n'est, spécialement la nôtre, messieurs, parce qu'il faut bien qu'en un certain moment, nous soyons en état de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Il y a des gens, vous savez, qui sont vraiment platoniciens, ou plutôt vraiment chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème, il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Mais dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant, ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez par différence ce qu'est le désir sexuel. Pas seulement, ni surtout, le manque, mais bien
la puissance de jouir et donc la jouissance possible, la jouissance en puissance. D'ailleurs, pour tout vous dire, s'il y a un moment où je ne manque de rien, pour ma part, c'est justement quand je suis en train de faire l'amour, précisément. Quand je suis dans le plus fort du désir. Alors un platonicien de stricte observance me dirait finement, si, si, même quand tu fais l'amour, il te manque quelque chose, c'est l'orgasme. Bonjour l'érotisme. S'il s'agissait que d'aller à l'orgasme par le plus court chemin, sincèrement, la masturbation serait plus simple. Et puis si vous voyez un homme, quand il est en train de faire l'amour, se dire « vivement que je jouisse », appelez-moi, mettez-le dans un bocal avec du formol, ça n'existe plus depuis très très longtemps. Non, ce que se dit l'homme, c'est « pourvu que ça dure, pourvu que ça dure ». Il voudrait que ça ne finisse jamais. Ce qui dit très exactement l'essentiel, l'orgasme en gros, il s'en fout. Et surtout, s'il a un peu mûri finalement, Philippe, un autre âge, un orgasme de plus ou de moins. Alors pour les femmes, je ne sais pas, mais pour les mecs, sincèrement, je ne vous raconte pas d'histoire. En gros, on s'en fout. Si vous voulez. Mais le désir, la puissance du désir, bandé en gros, ça, on ne s'en lasse pas. Et donc, Platon a tort. Ou plutôt, il a raison souvent, mais pas toujours. Parce qu'il a confondu le manque sexuel, c'est-à-dire exactement la frustration, avec la puissance sexuelle. Il n'y a d'ailleurs pas que le sexe dans la vie, comme disait Coluche. L'erreur de Platon, aussi bien, c'est d'avoir confondu le manque de nourriture, c'est-à-dire la faim, F-A-I-M, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas, ce qu'on appelle, comme chacun sait, et c'est un concept spinoziste, l'appétit. Quand vous passez à table avec des amis, aucun ne dit à ses convives « Je te souhaite une bonne faim, je te souhaite de bien manquer de nourriture. » Tu ne vas pas être déçu, il n'y a rien à manger. Non, non, vous lui dites « Je te souhaite bon appétit. » Tu vois, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. La faim est un manque, c'est une souffrance, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit est une puissance et déjà un plaisir. Quand on a perdu l'appétit au sens alimentaire comme au sens sexuel, l'appétence, c'est quand même beaucoup moins bien, évidemment. Le désir est puissance et l'amour, l'amour, je l'avais aussi écrit sur l'autre feuille, l'amour est joie. Aimer, c'est se réjouir, disait Aristote. Spinoza dit la chose de façon un tout petit peu plus compliquée, mais en vérité, ça revient au même. Spinoza donne cette définition de l'amour dans l'éthique. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit ce soir, tout à l'heure, je suis joyeux à l'idée que tu existes. Ou bien, il y a une joie en moi. Eh bien, tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou simplement, à chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. Vous prendrez ça pour une déclaration d'amour et vous aurez évidemment raison. Ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous aurez raison, mais aussi vous aurez beaucoup de chance. D'abord, parce que c'est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours, beaucoup sont morts sans avoir entendu ça, donc profitez-en bien. Mais vous aurez aussi beaucoup de chance, et surtout, parce que c'est le cas très rare d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Alors ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Vous allez me dire, mais quand on dit « je t'aime », on ne demande rien non plus, si, et pas seulement que l'autre réponde « moi aussi ». Ou plutôt, tout dépend de quel type d'amour on fait état lorsqu'on dit « je t'aime ». Si vous êtes chez Platon, amoureux en gros, dire « je t'aime », c'est dire « tu me manques ».« I need you », comme chantaient les Beatles. « Te quiero », comme on dit en espagnol. « Je t'aime, je te veux », c'est le même mot. C'est donc bien demander quelque chose. C'est même tout demander, puisque c'est demander quelqu'un. Et c'est pourquoi nos déclarations d'amour sont souvent pour l'autre tellement encombrantes et lourdes à porter. Alors que dire simplement « je suis joyeux à l'idée que tu existes », c'est ne rien demander du tout, c'est faire état d'une joie. Alors imaginez, mesdames, que ce week-end, un homme qui n'est pas votre compagnon, sinon c'est pas drôle, hein, un inconnu, mais pas si mal fait de sa personne, vous aborde dans la rue et vous dit « Madame, mademoiselle, je suis joyeux à l'idée que vous existez. » Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Alors vous allez me dire que ça ne me regarde pas, j'en suis bien sûr d'accord avec vous, mais comme il n'est pas impossible qu'il ait emprunté son accroche à tel ou tel de mes livres, il faut quand même que je vous donne quelques éléments de réponse possibles dont vous ferez bien sûr ce que vous voudrez. Madame, mademoiselle, je suis joyeux à l'idée que vous existez. Ben vous pourriez lui répondre par exemple, ah ça, cher monsieur, ça me fait plaisir. Non, c'est vrai, vous dites que vous êtes joyeux à l'idée que j'existe, vous le constatez, j'existe en effet, tout va bien, bonsoir monsieur. Vous connaissez les hommes, il va essayer de vous retenir. Il va vous dire, attendez, ne partez pas, je veux que vous soyez à moi. Oh, alors là, mon pauvre monsieur, c'est complètement différent. Relisez Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Vous êtes d'accord ? Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous rend joyeux ? Et donc, qu'est-ce que vous aimez, au fond ? Est-ce que ce qui vous rend joyeux, c'est l'idée que j'existe, comme vous avez cru le comprendre d'abord ? Auquel cas, je vous accorde que vous m'aimez, je m'en réjouis et je vous dis bonsoir. Ou bien est-ce que ce qui vous réjouit, c'est l'idée que je sois à vous, comme je crains de le comprendre à présent ? Auquel cas, ce que vous aimez, ce n'est pas moi, c'est la possession de moi. Et donc, mon pauvre monsieur, vous n'aimez que vous. Et ça, ça ne m'intéresse plus du tout. Alors là, vous l'aurez quand même déstabilisé. En gros, de deux choses l'une. Soit il se dit, merde, une intello, je me casse. Sincèrement, c'est pas le moins probable, mais c'est pas grave, ça prouve qu'il n'avait rien dans la tête. Bon. Soit il se dit, vraiment, celle-là, elle n'est pas comme les autres, il me la faut absolument, il s'accroche. Mais alors, vous l'aurez quand même déstabilisé, il va se mettre à bafouiller, il va vous dire, écoutez, je ne sais plus, je suis amoureux, quoi ? Vous pourriez lui dire, mais mon pauvre monsieur, c'est ce que je me tue à vous expliquer. Vous êtes amoureux, vous êtes dans le manque, vous êtes chez Platon. Mais enfin, à supposer que je cède à vos avances, à supposer que je sois tout à vous, comme vous dites, bah forcément, à force d'être tout à vous, je vais vous manquer de moins en moins. Et puis moins qu'une autre, ou moins que la solitude. On va s'ennuyer. Est-ce que vous avez envie qu'on revive ça encore une fois ? Sincèrement, moi, à mon âge, ça ne m'intéresse plus. À moins, pourriez-vous ajouter, à moins que vous ne soyez capable d'être spinoziste, au moins parfois, au moins un peu. À moins que vous ne soyez capable, non pas seulement d'aimer ce qui vous manque, mais de vous réjouir de ce qui est. Ah, ça, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Écoutez, réfléchissez-y, voici mon numéro de téléphone. Bien sûr que je schématise, je force l'écart entre les deux. Encore une fois, le plus souvent, on est dans l'entre-deux. On commence ordinairement par tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a pas. Et puis, alors, dans les mauvais cas, on tombe de Platon en Schopenhauer, ou de Platon en Houellebecq, parce que Houellebecq, c'est Schopenhauer aujourd'hui. Et on s'ennuie. C'est ce qu'on appelle un couple malheureux. Quand il n'y a plus de manque, il n'y a plus que l'ennui. Ou bien on monte, au contraire, de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il y a la joie. C'est ce qu'on appelle un couple heureux. Autrement dit, un couple heureux, c'est quoi ? C'est pas du tout le couple qui aurait trouvé le secret de manquer absolument de celui ou celle qui ne manque pas. Ils sont mariés depuis 30 ans, ils sont amoureux comme au premier jour. Tu me prends pour un con ou quoi ? Comment tu veux que j'avale cette histoire-là ? Tout le monde sait que c'est impossible. Vous allez me dire, je connais un cas sur 3 millions. C'est un cas pathologique. Il y a des psychiatres dans la salle. Non, le couple heureux, ce n'est pas le couple qui a trouvé le moyen de faire durer la passion. C'est celui qui a transformé la passion en action. Comme disait Denis Drougemont. Ce n'est pas celui qui a fait durer le manque là où il n'y a plus de manque. C'est celui qui a transformé le manque en joie. Une femme, 45 ans à l'époque, une de mes amies me disait un jour, parlant en son absence de son mari, « Bien sûr, je ne suis plus amoureuse de lui. » Il était marié depuis 20 ans, il avait fait 3 gosses, comment voulez-vous ? Non, elle me disait « Bien sûr, je ne suis plus amoureuse de lui. Mais j'ai toujours du désir pour lui. Et puis surtout, tu vois, c'est mon meilleur ami. » Cette femme qui me disait qu'elle faisait l'amour avec plaisir, avec son meilleur ami, m'a paru me dire quelque chose de très vrai, de très juste et en vérité d'assez troublant sur ce qu'est la vraie vie érotique des couples. En tout cas, si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Moi, je trouve ça absolument délectable. Alors bien sûr, quand on dit ça aux jeunes filles, elles sont un peu déçues parce qu'elles voudraient, elles, c'est Eros qui dure toujours, la passion qui dure toujours. Il faut leur dire honnêtement, la passion peut durer des années. Toute la vie, parfois, mais à une condition, c'est d'être malheureuse. L'homme qu'on n'a pas, la femme qu'on n'a pas, on peut l'aimer toute sa vie. C'est Adèle Hugo, Adèle H. dans le film de Truffaut. Elle en est morte, folle. Mais l'idée que la passion puisse durer dans le bonheur, c'est simplement une idée fausse. Parce que la passion, c'est le manque. Le bonheur, c'est la satisfaction. C'est la plénitude. On ne peut pas avoir à la fois l'un ni l'autre. Je vais très vite, il y aurait beaucoup à dire, mais l'heure tourne et on m'avait demandé de faire tenir tout en une heure. Un mot très rapidement sur Agapé, malgré tout. Alors, en vérité, on pourrait s'en dispenser parce que dans vos cabinets, c'est sans doute pas ce que vous allez voir le plus souvent. D'ailleurs, les Grecs, eux, s'arrêtaient là. Eros, philia, soit tu aimes ce que tu n'as pas, soit tu aimes ce que tu as. Soit tu es dans le manque, soit tu es dans la joie. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté ce troisième mot, agapé, qui est du grec, en effet. Et pourtant, c'est un mot que Platon n'a jamais écrit de sa vie, sans doute même jamais entendu ni lu de sa vie. Ni Aristote, ni Épicure. C'est du grec extrêmement tardif. Ce qui s'est passé, c'est que 300 et quelques années après la mort d'Aristote, dans un coin particulièrement paumé de l'Empire romain, parce que 300 ans après Aristote, c'est plus les cités grecques, c'est l'Empire romain. Quelqu'un qui n'était même pas grec, même pas romain, une espèce de petit métèque insolite, s'est mis à tenir dans un improbable dialecte sémitique, en araméen, semble-t-il, des propos tout à fait insolites, là encore. Par exemple, il disait « Dieu est amour. Aimez votre prochain. Aimez vos ennemis. » Et le plus étonnant, c'est qu'il y en a qui y ont cru. Ils se sont dit « Mais c'est formidable ce qu'il dit ce type, il faut le dire au monde. » Aujourd'hui, on le traduirait en anglais, on le mettrait sur Internet. À l'époque, il faut le traduire en grec, parce que c'est l'Empire romain, mais la langue cultivée de tout le bassin méditerranéen, la koiné, c'est encore le grec. À l'époque, il faut le traduire en grec et faire à pied le tour de la Méditerranée. Alors, on va essayer de traduire en grec « Dieu est amour ».« Ô Théos Eros Estin ». Dieu est manque. Les Grecs sont pliés en deux de rire. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui manque? Surtout, ton Dieu, tu dis tout puissant, mais il peut manquer de rien, c'est absurde. Dieu est amoureux de moi. Il est fou. Le gars est un malade, c'est un fou. Soyez amoureux de votre prochain. Mais attendez, le prochain, c'est n'importe qui, je ne vais pas tomber amoureux de n'importe qui. Le prochain, c'est tout le monde, je ne peux pas être amoureux de tout le monde. C'est une histoire de fou. Quant à soyez amoureux de vos ennemis, c'est une perversion. En gros, ce qu'on appelle le sadomasochisme. Donc, vous voyez, pour traduire l'amour évangélique, christique, c'est bien sûr de ça qu'il s'agit, Eros, ça ne va absolument pas. Philia, ça irait un petit peu mieux, mais enfin, pas de façon très satisfaisante. D'abord parce qu'Aristote, alors il est mort depuis longtemps à ce moment-là, mais les Grecs cultivés se souviennent malgré tout. Qu'Aristote, dans son génial bon sens, avait écrit quelque part « Il y a quelque ridicule à se croire l'ami de Dieu ». Parce que votre ami, c'est pas seulement celui qui vous aime. C'est celui qui vous préfère. Et oui, le même Aristote avait dit génialement, ce n'est pas un ami, celui qui est l'ami de tous. Il y a des gens comme ça. J'ai découvert, je me souviens, ici, à rue d'Ulm, que mon meilleur ami, en vérité, était l'ami de tous. C'est insupportable. Je ne veux pas qu'il m'aime comme il aime n'importe qui. Je ne suis pas son prochain, je suis son meilleur ami. Et donc, Dieu, vous aimant comme il aime n'importe qui, ne peut pas être votre ami. Et puis, aimez votre prochain. Mais on choisit ses amis. On ne choisit pas son prochain, par définition, c'est celui qui est là. Quant à être l'ami de ses ennemis, pour un grec, c'est violer le principe de non-contradiction, ce qui est encore la pire des perversions. Donc, voyez, pour traduire l'amour christique, disons, Eros, ça n'allait pas du tout, Philia, un peu mieux, mais quand même pas bien. Si bien que les premiers chrétiens ont dû inventer un nouveau mot, un néologisme, du moins qui n'est pas attesté avant les textes chrétiens, à l'écrit, à l'oral, personne ne peut savoir, mais comme il y avait un verbe en grec, agapan, qui signifiait aimer, chérir, en un sens un peu vague, les premiers chrétiens en ont fait un substantif, agapé, que les latins vont traduire par caritas, et les français par charité, surtout les catholiques, les protestants traduisant plutôt par amour. Disons que c'est l'amour de charité. Singulier, justement, parce qu'il est universel. Alors là, je suis un peu embarrassé, d'abord parce que je manque de temps, mais aussi parce que quand je parle d'Eros, je parle de quelque chose que je connais d'expérience à des gens qui le connaissent d'expérience. On a tous été amoureux. Quand je parle de philia, je parle d'expérience à des gens qui savent d'expérience de quoi je parle. On a tous aimé dans la joie. Quand je parle d'agapé, d'amour, de charité, je ne prétends pas en parler d'expérience. Pour tout vous dire, je ne suis même pas sûr que ça existe. Après tout, c'est peut-être qu'un idéal, mais un idéal, malgré tout, ça nous éclaire, ça mérite au moins qu'on y réfléchisse. Y compris pour ceux comme moi qui sont athées. J'ai coutume de dire qu'être athée, ça ne dispense pas d'être intelligent et que j'aimerais au moins comprendre. Et c'est surtout important quand il s'agit de textes fondateurs de notre civilisation. Or, les évangiles d'évidence font partie des textes fondateurs de notre civilisation. Alors, agapé, la charité, on pourrait dire c'est l'amour selon Jésus. Si on veut rester dans le registre philosophique, on va dire que c'est l'amour selon Simone Veil, avec un W. C'est bien sûr pas la femme politique, c'est la philosophe, celle qui est morte à Londres en 1943, si mes souvenirs sont bons. Quand Simone Veil essaye de penser ce qu'est l'amour de charité, elle part toujours d'une phrase de Thucydide, l'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Thucydide, dans les guerres du Péloponnèse, écrivait ceci. « Toujours et partout, par une nécessité de nature, tout être tend à affirmer au maximum sa puissance. » Toujours et partout, par une nécessité de nature, tout être tend à affirmer sa puissance. Logique de la guerre, bien sûr, logique de la politique, logique du commerce, logique du business, logique du sexe. Là, Sade a dit quelque chose d'essentiel en une phrase, « Tout homme est un tyran quand il bande. » Tout homme est un tyran quand il bande. Il tente à affirmer au maximum sa puissance. Il y a des tyrans qui se surmontent, qui se contrôlent, c'est ce qu'on appelle un homme civilisé, mais... Logique du conatus, dirait Spinoza, logique de la puissance. Exister plus, affirmer au maximum sa puissance. Et Simone Veil dit, c'est vrai. C'est toujours vrai dans la politique, dans l'économie, dans le sexe. C'est toujours vrai, sauf quand il y a amour de charité. Voilà. L'amour de charité, c'est un amour qui n'affirme pas au maximum sa puissance. C'est même un amour qui se retire, qui consent à exister moins pour que l'autre puisse exister davantage. Trois exemples pour essayer de rendre concret ce qui n'est peut-être par ailleurs qu'un idéal, mais vous allez voir, c'est un idéal qui parle à notre expérience. Vous avez des enfants, pour tel ou tel d'entre vous, ils sont à l'étage dans leur chambre, vous êtes en bas. Et soit... ils font trop de bruit, ou bien c'est l'heure d'aller se coucher, ou c'est l'heure de faire les devoirs. Bref, vous montez au premier étage pour rétablir l'ordre dans la chambre des enfants. Sauf qu'en arrivant, alors vous montez par amour, joyeusement, mais enfin, quand même pour affirmer votre joie, mais aussi votre puissance d'agir, comme dirait Spinoza. Sauf que, à peine êtes-vous sur le palier, que par la porte entrouverte, vous voyez les deux ou trois petites têtes blondes ou brunes, tellement mignon, tellement fragile, tellement bouleversant de fragilité, tellement bien sans vous, qu'au lieu d'entrer pour affirmer votre puissance, vous redescendez l'escalier sur la pointe des pieds. Vous renoncez à affirmer au maximum votre puissance, simplement pour que vos enfants, eux, puissent exister un peu plus. Un de mes amis, sociologue de grand talent par ailleurs, mais aussi père de famille, me disait un jour, les enfants, c'est comme l'eau. Ça occupe toujours tout l'espace disponible. Je me suis dit, celui-là, il connaît vraiment la vie. Les enfants, c'est comme l'eau. Ça occupe toujours tout l'espace disponible. eh bien, je vais vous dire, les parents, c'est pas comme l'eau. Parce que si les parents occupaient toujours tout l'espace disponible, les enfants n'auraient plus d'espace pour vivre. D'ailleurs, ce qu'on dit au père dès qu'on lui remet le nouveau-né dans les bras, c'est « Attention, le secoue pas comme ça, il est fragile, tiens-lui le cou, tiens-lui la nuque, tu vas le tuer. » Si on laissait les pères affirmer jusqu'au bout leur puissance, aucun nouveau-né ne survivrait au premier contact. Quand vous redescendez l'escalier, vous renoncez à affirmer jusqu'au bout votre puissance. Amour de charité, dirait Simone Veil. Et c'est pas un hasard, bien sûr, si Dieu est censé être père dans cette tradition-là. C'est que si Dieu avait voulu affirmer jusqu'au bout sa puissance, mais il n'y aurait jamais eu que Dieu, explique Simone Veil. Pour qu'autre chose que Dieu puisse apparaître, le monde avec nous dedans, il faut que Dieu consente à n'être pas tout. Dieu se retire, et Simone Veil reprend ici, peut-être sans le savoir, un vieux thème mystique juif qu'on appelle le tzimtzum, le retrait de Dieu. Et c'est parce que Dieu se retire que dans l'absence de Dieu, apparaît bien sûr moins bien que Dieu, le monde, avec nous dedans. C'est pas un amour qui veut exister plus, c'est un amour qui consent à exister moins. Amour de charité. Enfin, troisième exemple, je vais très vite parce que comme toi, ce n'était pas l'essentiel de mon propos. Troisième exemple, dans le couple. C'est vrai qu'il vous aime. Il vous aime tellement, il est tellement joyeux qu'il existe de plus en plus. Parce que la joie pour Spinoza, c'est ça, c'est le passage à une perfection supérieure, c'est exister davantage. Il est tellement joyeux qu'il existe de plus en plus. Il occupe de plus en plus d'espace. Et vous, ben, vous avez de moins en moins d'espace pour exister. C'est bien qu'à un moment, vous n'en pouvez plus de le voir si joyeux, si puissant, si pleinement existant, vous reculez d'un pas, un peu d'air. Oui, mais lui, il vous aime, il est joyeux, il avance d'un pas. Chérie, ça va pas, je t'emmène au cinéma, on va voir un tel, on va faire ceci, faire cela. Et vous, vous avez envie de pleurer. Sauf si au moment où il voit que vous reculez d'un pas, parce que vous êtes exactement en position de faiblesse. L'autre, au lieu d'avancer d'un pas, recule de deux pas. Pour vous laisser un peu plus d'espace à vous pour exister. Selon la formule du philosophe allemand Adorno, quelle est, je crois, la formule qui me touche le plus s'agissant d'amour, dans Minima Moralia, Adorno écrit ceci, « Tu seras aimé ». Il dit « tu », mais c'est à lui qui parle. Minima Moralia, c'est quasiment un journal intime. « Tu seras aimé lorsque tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Tu seras aimé quand tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. » Amour de charité. Et si la charité n'est pas purement un idéal, ben c'est peut-être que dans la famille vis-à-vis d'un enfant et dans le couple vis-à-vis de l'autre, nous sommes capables parfois de consentir à exister moins, pour que l'autre puisse exister davantage. En conclusion, et j'en aurais fini, ben en conclusion, j'ai surtout envie de relativiser tout ça. Parce que bien sûr, je l'ai dit en passant, attention de ne pas absolutiser les différences entre ces trois amours. C'est pas trois essences séparées, c'est pas trois mondes différents. D'abord, ce ne sont que des concepts. Le réel n'est pas un concept. Le réel est toujours dans l'entre-deux ou dans l'entre-trois. Ce ne sont pas trois mondes séparés, c'est plutôt trois pôles, mais dans un même champ qui est le champ d'aimer. C'est plutôt trois moments, mais dans un même processus qui est le processus de vivre. En vérité, les trois peuvent et doivent aller ensemble. Quand bien même le troisième, encore une fois, ne serait qu'un idéal qui montre la direction où il fallait, qui n'est pas autre chose que l'universalisation de Philia. Et alors, ce qui montre une amitié sans rivage, ce qui montre peut-être le mieux cette synthèse entre Eros et Philia, ben c'est l'image archétypale et de l'humanité et de l'amour. Et c'est pas un hasard, là encore, s'il s'agit d'une femme, puisque c'est l'image de la mère à l'enfant. C'est la mère qui allait son petit. Regardez la mère, regardez l'enfant. Regardez d'abord l'enfant. L'enfant, il prend le sein. Eros. Pour le dire au plus court, c'est quoi Eros ? C'est l'amour qui prend. Et il prend pas du tout le sein par amour de sa maman ou pour son bien à elle. S'il vient de naître, il ne sait pas qu'il a une mère, il ne sait même pas ce que c'est qu'une mère. Non, il prend le sein parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il a peur. Enfin, le sein, le biberon, peu importe, mais il prend le sein ou le biberon parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il a peur. Non pas pour son bien à elle, mais pour son bien à lui. Eros, l'amour qu'il prend. Et regardez la mère, elle donne le sein. C'est plus l'amour qui prend, c'est l'amour qui donne. Et qui donne le sein, non pas d'abord pour son bien à elle, ça lui fait aussi du bien à elle, mais qui donne le sein d'abord pour son bien à lui. Filia. Eh bien, imaginez quelqu'un qui aurait, pour tout être humain, le même amour joyeux et qui est généreux que la mère a pour son enfant. Vous avez une image assez juste de ce que serait vraiment l'amour de charité. Encore une fois, si Dieu est père, c'est pas un hasard. S'il était mère, bien sûr, ça serait encore beaucoup mieux pour tout le monde. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire-là, et c'est par quoi je finirai, c'est bien sûr que la mère a été un enfant d'abord, un bébé d'abord. Elle a commencé par prendre, comme tout le monde. Elle a commencé par Eros. Au fond, nous commençons tous par Eros. C'est ce que Freud appelle le pansexualisme. Il a raison, bien sûr. La mère a été un bébé d'abord. Elle a commencé par Eros. Elle a commencé par prendre. Et elle a appris progressivement à donner. C'est ce qu'il appelle grandir. Passer d'Eros à Philia. Passer du manque à la joie. Passer de l'amour qui prend à l'amour qui donne. Alors c'est cet amour-là, si on l'universalise, qui est agapé, et cet amour-là, bien sûr, pour les chrétiens, qui est Dieu. Dans la première épître de Jean, Dieu est amour, en grec ça s'écrit « O Theos agapé estin », Dieu est charité. Alors est-ce que l'amour est Dieu? Oui, si Dieu existe. Autrement dit, si l'amour est tout-puissant. Parce que des fois, les gens me disent, mais vous dites que vous êtes athée, mais en vérité, vous croyez en l'amour. Moi, je crois en un Dieu d'amour. On croit en la même chose. Vous n'êtes pas plus athée que moi. Si. Parce que, du fait que Dieu, s'il existe, soit amour, ça ne suffit pas à conclure que l'amour soit Dieu. Parce que l'amour n'est Dieu que si l'amour est tout-puissant. Que si l'amour est immortel. Que si l'amour, comme dit le Cantique des Cantiques, est plus fort que la mort. Alors si vous pensez que l'amour est tout puissant, immortel, plus fort que l'amour, plus fort que la mort, appelez-le Dieu, en effet, c'est plus simple, c'est plus clair. Vous êtes croyant. Si au contraire vous pensez, comme moi, que l'amour n'est pas tout puissant, que l'amour est faible, qu'il n'est pas immortel, et qu'il n'est pas plus fort que la mort, mais moins fort que la mort, malheureusement, alors l'amour n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un amour humain. L'amour alors n'est pas Dieu, mais il est sans doute ce qui, en l'homme, ressemble plus à Dieu. Ce qui nous en a donné l'idée, peut-être, et en tout cas pour l'athée, ce qui en tient lieu. Vous allez me dire, oui, mais si l'amour ne vient pas de Dieu, d'où vient-il? Ça me ramène à mon début. Si l'amour ne vient pas de Dieu, il vient du sexe et des femmes. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, André Comte-Sponville. Après tant de passion, on a un peu le souffle coupé. Est-ce que quelqu'un veut intervenir?
Vous avez le droit, elle ne vous encourage pas vraiment. Madame.
Le chamanisme rejoint un peu ce que vous dites sur la puissance des femmes et sur la force de l'amour qui est appelé agapé dans le sens chrétien.
Eh bien, tant mieux pour le chamanisme, là. Oui, monsieur, oui.
Alain Michelon.
Je crois me souvenir que les Grecs avaient essayé de trouver des solutions à tout ça, notamment... La distinction entre l'épouse, la maîtresse et puis la courtisane, est-ce que ça vous paraît dans la droite ligne de ce que vous avez démontré? Est-ce que ça vous paraît applicable de façon raisonnable actuellement?
Ce qui me paraît tout à fait applicable, c'est de faire l'amour avec quelqu'un qui ne manque pas. C'est-à-dire, c'est d'aimer son compagnon, sa femme, son mari, peu importe le vocabulaire. Vous savez, une amie psychiatre, c'est dans la même qui me parlait de son mari, m'a dit un jour, il y a des années de ça, faire l'amour pour atteindre l'orgasme, c'est une sexualité masturbatoire. À l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 25 ans. Je lui ai dit, t'es sûr que c'est pas ce qu'on appelle la sexualité masculine? Maintenant, je ne dirais plus ça. Parce que j'ai appris avec le temps que ça n'est pas la même chose de faire l'amour parce qu'on a envie de jouir, et de faire l'amour parce qu'on aime faire l'amour, encore autre chose. Pour ce qui est de jouir, encore une fois, la masturbation y arrive beaucoup plus simplement et souvent mieux, finalement. Et puis surtout, faire l'amour parce qu'on désire et qu'on aime la personne avec qui on fait l'amour. En vérité, c'est ça la vraie question. Quand vous faites l'amour, est-ce que vous désirez l'orgasme? Est-ce que vous désirez... Alors là, vous êtes vraiment chez Platon. Est-ce que vous désirez faire l'amour? C'est déjà mieux, évidemment. On est déjà chez Spinoza, la puissance. Ou est-ce que vous désirez la personne avec qui vous faites l'amour? Alors, il peut y avoir un peu de tout ça, là encore. Je prends des grands conseils pour y voir plus clair. Le réel est toujours plus compliqué que tout ça, mais c'est pas la même chose. Alors voilà, ce qui m'éclaire le plus, c'est ça, c'est que je sais d'expérience qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un qui ne manque pas. Et je pense que c'est la seule façon vraie de faire l'amour. Parce que si vous faites l'amour avec quelqu'un qui manque, bah vous faites l'amour à votre mari en pensant, en rêvant à votre fantasme, à celui que vous aimez secrètement, c'est pas très satisfaisant. Ou bien vous faites l'amour en ne tendant qu'à l'orgasme qui vous manque, en sexualité masturbatoire, c'est pas très plaisant. Non, non, la vraie vie, ce qu'il y a d'intime, de troublant, de joyeux, de tendre, d'humoristique dans la sexualité des couples, c'est qu'en vérité, on fait l'amour avec son meilleur ami. Des très belles définitions de l'amitié que j'ai trouvées sur Internet, dans je ne sais plus quel chat, plutôt genre ado d'ailleurs, je ne me souviens plus bien où c'était, sans nom d'auteur, donc on va dire anonyme du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Réponse. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît très très bien et qui vous aime quand même. C'est merveilleux, ça. Très belle formule d'Éluard à sa femme Neusch dans un poème. On ne peut me connaître mieux que tu ne me connais. On ne peut me connaître mieux que tu ne me connais. Ils vivent ensemble depuis des années. C'est le contraire de la passion amoureuse du début. On tombe amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tombe amoureux des illusions qu'on se fait sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. En gros, c'est ce qu'on appelle son mystère. Je l'aime pour son mystère, me disait un de mes amis à 40 ans passés, amoureux de fraîche date. Je lui réponds, écoute, tu es en train de m'expliquer que tu l'aimes parce que tu ne la connais pas. Prends le temps de faire connaissance. Alors, quand il n'y aura plus de méconnaissance, d'illusion, parce qu'en toi, être amoureux, c'est forcément se faire des illusions sur la personne qu'on aime. La vraie question, c'est quand il n'y aura plus d'illusions, quand vous aurez vraiment fait connaissance, est-ce que vous l'aimerez encore ou pas? Le couple malheureux, c'est quand il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus d'amour. Le couple heureux, c'est quand il n'y a plus d'illusions, il y a encore de l'amour. Belle et cruelle formule de Gainsbourg. On aime une femme pour ce qu'elle n'est pas, on la quitte pour ce qu'elle est. C'est vrai aussi, bien sûr, pour les hommes. Sauf quand il n'y a plus de méconnaissance, tout d'un coup, on comprend pourquoi c'est merveilleux de vivre ensemble. C'est plus la passion amoureuse. C'est plus la cristallisation à la Stendhal. On est dans la vérité. Et je trouve que c'est un cadeau merveilleux à nous faire, mesdames. Plutôt que d'aimer ce que vous croyez qu'on est, ce qui est très gonflant pour les mecs, mais je pense que c'est pareil pour vous de votre point de vue, je parle du point de vue qui est le mien, mais elle-même, elle ne me connaît pas. Elle-même, parce qu'elle me prend, elle me confond avec les illusions qu'elle se fait sur moi, mais d'abord, c'est pas moi qu'elle aime. Et puis en plus, si on vit ensemble, il y aura de moins en moins d'illusions, elle ne m'aimera plus. Alors que la femme qui vous connaît vraiment, qui vous connaît très très bien, et qui vous aime quand même, ça c'est le cadeau somptueux. C'est ça l'amour vrai. De ce point de vue, l'amour vrai est dans le couple, bien sûr. Il n'est pas dans la passion amoureuse des débuts. Parce que la seule façon de connaître très très bien quelqu'un, en vérité, c'est de coucher avec. C'est pour ça que vous connaissez beaucoup mieux votre conjoint, votre époux, votre compagnon, ou conjointe, épouse, compagne, que votre meilleur ami, en vérité. Enfin, votre meilleur ami avec qui vous n'avez pas couché, je veux dire. Le couple est un lieu de vérité. Le couple est le lieu où peuvent se rencontrer le plaisir. Parce qu'en tout soit dit, il y a quand même plus de plaisir, alors peut-être surtout pour les femmes, dans un couple un peu intime, que dans les premières nuits. Il faut prendre le temps de se connaître quand même, de se comprendre, savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, et puis que le mec désangoisse un peu, qu'il les accule moins vite, que sais-je. Oui. Il y a plus de plaisir le plus souvent dans le couple que dans la passade. Le couple est un lieu de plaisir possible, de vérité possible, d'amour possible. C'est donc un lieu par excellence d'expérience spirituelle. Le philosophe Alain écrivait très joliment au début du XXe siècle, « Finalement, c'est le couple qui sauvera l'esprit. » Parce que l'esprit, c'est quoi? C'est tout bêtement la rencontre de l'amour et de la vérité. C'est ce qu'on appelle un couple heureux. Alors qu'il y a beaucoup de couples malheureux, des couples schopenhauériens, welbeckiens, j'en suis d'accord, évidemment. C'est peut-être même le plus fréquent, j'en sais rien. Ça donne raison à Platon. Mais qu'il y a aussi des couples heureux, ça donne raison à Spinoza, ça donne raison à Aristote, et on aurait tort de l'oublier. Et puis qu'il y a surtout beaucoup de couples qui des fois sont chez Platon, des fois sont chez Spinoza, des fois dans l'ennui, des fois dans le plaisir, des fois dans l'amour, des fois dans la rancœur. C'est ça la vie quotidienne réelle des couples. Oui. Alors qu'il ne faille pas enjoliver les couples, j'en suis d'accord, mais enfin reconnaissons que le célibat n'est pas non plus sans quelques inconvénients. Oui.
Oui, docteur Bellin.
Moi, je suis émerveillé de vous entendre. Mais quand on parle de Eros et de Philia et d'Agapé, est-ce que derrière la porte, il n'y a pas Thanatos dans un coin? Dans ce sens que l'homme, face à sa mortalité, puisque on est amené à disparaître, vous vous décrivez comme athée, il y a quand même le besoin... dans l'érection, le processus phallique qu'on retrouve dans de nombreuses sociétés, qui sont même des rites, les hommes sont obligés de passer essentiellement par la femme pour pouvoir effectivement transmettre. Or, dans l'évolution de l'humanité, c'était la femme qui était les premiers rites, qui étaient effectivement des rites agraires, puis après des rites phalliques. Donc, je voudrais avoir votre opinion sur un petit peu ce qui peut y avoir caché derrière sur cette angoisse un peu existentielle qui existe à la fois chez l'homme et chez la femme et dans les comportements que l'on observe quelquefois avec plusieurs partenaires différents, des chaînes de vie ou autres. Et la femme, à l'heure actuelle, a un grand pouvoir de décision de vie ou de mort sur l'avortement, pas ou autre... Donc, j'aimerais que vous alliez le côté obscur de cette région.
Alors, à mon avis, le côté obscur, comme vous dites, c'est le côté du sexe, beaucoup plus que l'amour. Eros est un dieu noir, disait joliment Pierre de Mandiard, qui il a bien sûr raison. Parce qu'il y a de la violence dans le sexe, surtout masculin. Tout homme est un tyran quand il bande. En gros, la pulsion de mort est du côté des mecs, surtout. Les femmes sont beaucoup plus douées pour la vie et pour donner la vie, et les hommes sont beaucoup plus doués pour donner la mort, quoi, en gros, pour schématiser. Je schématise, hein, il y a des femmes assassines et quelques saints chez les hommes, mais c'est quand même la direction. Alors, Eros est un dieu noir, parce qu'il y a de la violence. Sade, tout homme est un tyran quand il bande. Parce qu'il y a la volonté de traiter l'autre comme un objet. Alors, je ne vous ai pas lu ici, c'était dans mes notes, mais j'avais pas le temps, mais... Il y a un très beau texte de Kant dont on dit qu'il est mort puceau, comme quoi le génie est quelque chose d'invraisemblable, parce qu'il a mieux compris la sexualité que vous et moi, en la connaissant moins, semble-t-il. Au fond, il y a au fond de la morale kantienne, c'est l'une des trois formulations de l'impératif catégorique, à mon avis c'est la plus éclairante, agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité, et en toi-même et en autrui, toujours en même temps comme une fin, F-I-N, comme un but, jamais seulement comme un moyen. Respecter l'autre, c'est le traiter comme une fin en soi, un but en soi, et pas comme un objet, comme un moyen pour nous satisfaire. Or, constate Kant, dans la vie sexuelle, je traite l'autre comme un objet pour ma jouissance. Si bien qu'il y a, contrairement aux tartes à la crème, 68 tardes, où on est passé d'une idiotie, à savoir le sexe intrinsèquement coupable, à une autre idiotie, le sexe intrinsèquement bienveillant et salutaire. Non, le sexe n'est pas intrinsèquement coupable, c'est pas mal de faire l'amour, on est d'accord là-dessus, mais le sexe est foncièrement amoral, et s'il fallait choisir entre immoral ou moral, il est bien plus immoral que moral. Il y a une jouissance de l'autre. C'est la vérité du viol, c'est la vérité de la prostitution. Et on n'a rien compris à la sexualité, en tout cas masculine, si on ne comprend pas que le viol et la prostitution touchent à l'essence de la sexualité, à cette zone obscure, mortifère en quelque chose. Et puis, alors il y a aussi là, ce que dit Freud, qui est autre chose. Ce n'est pas la volonté d'objectiver l'autre, de traiter comme un objet. Non, l'amour, c'est le contraire. Dans la sexualité, on aime bien jouer avec ça, en vérité. Hein, le côté un peu sadomaso, un peu obscur, traiter l'autre comme un objet, se donner comme un objet à l'autre, ça passe autant qu'il y a de l'amour. Sinon, on est déjà dans une forme de perversion et de pulsion de mort, si vous voulez. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, vous savez, dans ce très beau texte de Freud, au-delà du principe de plaisir, Freud explique qu'au cœur de toute pulsion, il y a l'envie de retrouver l'état antérieur. Vous avez faim, vous mangez pour retrouver l'état d'avant que vous n'ayez faim. Vous avez soif, vous buvez pour retrouver l'état d'avant la soif. C'est bien que toute pulsion, explique Freud, alors c'est un peu de la métaphysique, il dit lui-même, mais moi ça m'éclaire. Toute pulsion tente à retrouver un état antérieur. Si bien que la logique foncière de la vie, c'est de retrouver l'état antérieur à la vie, c'est-à-dire la mort. Et c'est ce que Freud appelle le principe de nirvana, comme quoi toute pulsion tendrait vers sa propre disparition, vers un état d'équilibre. Au fond, le sens de la vie, ça serait de mourir. C'est là où Freud est au plus près de Schopenhauer. Moi, ce que je propose, c'est une autre lecture que celle de Freud ou de Schopenhauer. C'est ce que Spinoza appelle, bon, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, le conatus. Conatus en latin, ça veut dire effort. C'est quoi le conatus? C'est l'effort de tout être pour persévérer dans son être. C'est plus l'appétence de mort, le principe du nirvana de Freud, se dissoudre, retourner au néant originel, parce qu'à ce compte-là, le suicide serait un formidable raccourci. C'est vrai que l'orgasme ramène à un état de repos antérieur à l'érection, disons. Hein. Mais enfin, le suicide le ferait de façon définitive, si vous voulez. Si le sens de la vie, c'est la mort, le suicide est la meilleure stratégie. Si au contraire, le sens de la vie, c'est de résister à la mort, la tendance de tout être à persévérer dans son être, géniale définition de la vie, à mon avis la plus belle que je connaisse, donnée par Bichat, un médecin au tournant des 18e et 19e siècles, si mes souvenirs sont bons, Bichat écrit simplement, mais c'est génial, « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. » La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Auquel cas, le sens de la vie, c'est plus de mourir, c'est pas le principe du nirvana, c'est le conatus, c'est le plaisir, c'est l'amour. On est dans la métaphysique, mais c'est intéressant la métaphysique, mais mon idée, en gros, c'est que les femmes sont plus meilleures du côté de Spinoza. Si vous voulez. Post coitum omne animal triste, il me semble que c'est surtout un dicton de mec. Les femmes ne sont pas tristes après l'amour. Eh bien voilà. Les hommes sont spontanément du côté de Freud ou de Sade. Ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Les femmes sont plus spontanément du côté de Platon quand elles sont amoureuses, de Spinoza quand elles aiment simplement. Et on ne notera pas de l'idée que c'est les femmes qui sauvent l'humanité depuis 100 000 ans. De la barbarie qu'on appelle la masculinité ou la virilité. C'est ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation, c'est le travail d'éducation des femmes sur les hommes. C'est ce qu'on appelle élever un enfant. Mais la civilisation commence là. Or, pendant 100 000 ans, ça a été la tâche exclusive des femmes. Depuis combien de décennies est-ce que les pères consentent ne serait-ce qu'à toucher le nouveau-né ou le bébé de moins de 5 ans ou de 7 ans, si vous voulez? 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais l'humanité a 100 000 ans. Le Homo sapiens sapiens, sans parler d'Homo erectus, etc. 100 000 ans de gens comme nous, avec les mêmes gènes, le même corps. Eh bien, je vous jure bien que dans les conditions très dures de la préhistoire, pour qu'un nouveau-né survive, il était indispensable que sa mère l'aime. Et assez précieux qu'elle se fasse aimer par le père. Elle.
pourquoi, quand je dis que l'amour est une invention des femmes, pour une part, c'est une boutade, ce n'est pas une thèse d'anthropologie fondamentale. C'est un clin d'œil de philosophe, mais ce n'est pas simplement un jeu de mots, ce n'est pas pour faire joli. Ça touche, je crois, à une dimension essentielle de l'histoire humaine. Les hommes sont meilleurs pour tuer, les femmes sont meilleures pour vivre et pour donner la vie. Je ne sors pas de là. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée parce qu'il est un peu tard et on a tous des tas de choses à faire. Merci à tous.
Merci encore. Merci beaucoup, André Comte-Sponville. Oui, je vous en prie. Merci. Écoutez, je crois qu'on va tous rentrer maintenant avec un album, je crois, intéressant du souvenir de la journée insolite. Et je vous remercie. Je remercie les participants, mais surtout les intervenants et toute l'équipe qui a bien travaillé, je crois. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt, peut-être.